Imaginez, pénétrer au cœur de l'Assemblée nationale pour une réunion secrète organisée par trois anciens députés, revenus sur le lieu du crime pour essayer de poser des mots sur ce qui s'est vraiment passé. Nous sommes en 2021 et l'Assemblée est morte, quelques années plus tôt. Une désaffection politique reprise par un flash radiophonique, interprété par des comédiens excellents dans le bruitage des interférences de la bande FM d'un vieux poste installé sur un recoin de la scène. Celle qui leur tourne le dos, c'est Marianne, irrésistible, avec sa longue perruque noire et sa puissante voix grave, parce que Marianne est travestie, perchée sur talon aiguille, revêtue d'une robe rouge. Une véritable performance pour Anthony Liébeau, qui tient là un personnage clé de voûte pour la pièce. Cette Marianne-là n'a pas le sein nu, mais deux trous rouges au côté droit. Il y a du Rimbaud, et sans doute encore un peu de Delacroix, parce qu'elle erre comme un fantôme dans les loges de l'Assemblée. Comme pour tenter de guider encore le peuple, en laissant résonner entre des murs drapés de banderoles, ces vers du vieil Hugo. Quel est le plus grand péril de la situation actuelle? L'ignorance. L'ignorance encore plus que la misère. Parce qu'il y a toujours un espoir chez nos trois députés, Jean-Michel, Arthur Baratin, Marie-Ange, Alix Arbet et Dimitri, Pierre-Damien Traverso, l'espoir de repenser une nouvelle assemblée, à condition d'oser. Oser affronter un passé commun, fait de querelles, de disputes et d'affrontements historiques dont l'assemblée a été le théâtre. La pièce en fait le récit, convoquant plusieurs tableaux, la rédaction de la Constitution de l'an 1. Celle de 1793 donne le ton des querelles fondatrices entre les défenseurs du pain et les tenants de la Constitution. Rétro-prototype d'une séparation entre le peuple et ses élites, d'une opposition insoluble entre ceux qui fabriquent le pain et ceux qui fabriquent la loi. Et malgré tout, il y a les efforts de ceux qui ont tenté une synthèse républicaine à l'instar de Jaurès qui revit soudain sur scène à la manière d'un hologramme joué juste à l'avant de la scène, sous le feu des projecteurs. Entre ces tableaux aux transitions soignées par une grande maîtrise de la lumière, les personnages se baladent dans leurs propres souvenirs, à l'instar de leur toute première rentrée sur les bancs de l'Assemblée. C'est aussi dans la mise en scène de ces rituels parlementaires que s'affirme la qualité du travail quasi-ethnographique mené depuis 2 ans par la Compagnie de la Grenade pour cette création. Le jeu des comédiens est comme imprégné par leur visite de l'Assemblée nationale, le visionnage de LCP ou encore par les entretiens réalisés avec plusieurs assistants parlementaires. De ce travail d'observation, de plateau et d'écriture naît le cinquième personnage de la pièce qu'interprète Soizic de la Chapelle, metteur en scène et comédienne. Sylvie, c'est le nom du personnage, est le greffier fidèle de l'Assemblée qui ressurgit de nulle part au bout d'une bonne dizaine de minutes après le début de la pièce, revenu pour exercer méthodiquement son travail de scribe avec une fidélité propre aux fonctionnaires zélés des grandes institutions publiques. Noter, quadriller, noter tout ce qui se dit sans jamais parler ou même relever la tête. L'Assemblée est morte, pourrait peu à peu s'embourber dans les méandres d'un théâtre politique qui prendrait plaisir à se regarder lui-même et à s'auto-proclamer détenteur d'une vérité. La pièce pourtant ne tombe jamais dans ce travers, évitant ainsi de recréer le cloisonnement hermétique, peuple, élite. Parce que l'énergie des comédiens vient aussi de ce juste dosage entre références historiques et clin d'œil à un présent ouvert sur la culture populaire qui emprunte au western. La scène du face-à-face des deux députés est mémorable, mais aussi à la comédie musicale ou au jeu télévisé. Et puis Marianne donne aussi l'occasion de rendre un hommage au regretté Michel Delpech, parce que quand même, quand Marianne était jolie, ça ira toute la vie.
Elle est née dans le Paris 1790, comme une rose épanouie au jardin des fleurs de lys.
Mais voilà, Marianne a vu ses députés confondus par le bizutage des lobbies. Dans l'ombre, à la lueur des cigarettes, d'acteurs puissants, donnant à voir et à jouer avec la fabrique de la loi en coulisses. L'Assemblée est morte, nous disent-ils, perdant du terrain face au lobby, mais aussi face à l'exécutif. Sur scène, un ancien président de la République promène soudain en laisse le pouvoir législatif. L'inversion du calendrier électoral, hein, réjouit alors Jacques Chirac. L'Assemblée, elle est aussi asphyxiée par un exécutif soufflant des accusations à son encontre comme un pyromane peut souffler sur des braises. C'est la crise. Et puis qu'il la viole à coups de 49-3, tcha-tcha-tcha. C'est drôle et c'est tragique. L'Assemblée est morte, mais elle différents registres. Comme pour mieux, pour mieux se rappeler qu'il y a de l'épique en politique, se rappeler qu'il y a du poétique en politique, du comique en politique, du pathétique en politique, de l'ironique en politique, du satirique en politique. Autant de registres comme un appel à ne pas, à ne surtout pas cantonner la politique à un seul registre. Et surtout, surtout pas ne l'enfermer dans un seul lieu, aussi sympathique soit le Palais Bourbon. Parce qu'un seul lieu ne suffit pas et que la politique commence toujours par le langage. Étonnant syndrome d'ailleurs que le mutisme du personnage de Sylvie, notre greffier, qui finit par quitter la scène sous les injonctions de Jean-Michel, député, fils de boulanger, énervé par la rage de vivre et de combattre les inégalités. Et le spectateur dans tout ça ? Les collégiens de 6e présents ce soir-là ont posé des tonnes de questions à la fin de la pièce, réceptifs à des détails du spectacle qui interrogent le fond et la forme. Et puis il y a cette question. Pourquoi Sylvie ne parle pas ? Elle est muette ? Réponse de Soizic. Il y a plein de raisons. Peut-être qu'elle est muette, mais pas forcément. Dans tous les cas, je préfère que vous fassiez votre propre avis. Alors, pour que vous aussi, chers auditeurs, vous puissiez vous faire votre propre avis sur cette pièce, je vous invite à suivre l'actualité de la compagnie de la Grenade qui ne devrait pas tarder à reprogrammer quelques dates d'ici septembre prochain sur Lyon. D'ici là, vous pouvez aussi programmer une visite à l'Assemblée nationale ou mieux regarder les vidéos de Khaled Freik passé maître pour remixer les combats de mâles à l'Assemblée. Allez, la parole est à Dominique Dord.
Merci, la parole est à monsieur Dominique Dord.
Vous aviez promis la croissance, elle est à zéro. Mais c'est pas de votre faute. Mais c'est pas de votre faute. Mais c'est pas de votre faute. Vous aviez promis de l'emploi. Et le chômage va battre son record historique. Mais c'est pas de votre faute. Mais c'est pas de votre faute. Vous aviez promis le pouvoir d'achat. Et pour la première fois dans notre pays, le pouvoir d'achat a baissé. Mais c'est pas de votre faute. Mais c'est pas de votre faute. Vous aviez promis de faire payer les riches. Mais les riches sont partis. Et c'est les classes moyennes qui payent. Mais c'est pas de votre faute. Mais c'est pas de votre faute. Vous aviez promis de mettre la finance internationale à genoux. Mais c'est vous qui êtes à genoux. Mais c'est pas de votre faute. Mais c'est pas de votre faute. Vous aviez promis la République irréprochable. Et vous avez osé nommer Ségolène Royal. Mais c'est pas de votre faute. Mais c'est pas de votre faute. Vous aviez promis une majorité exemplaire. Et toute la France sait ce qu'il en est de votre majorité exemplaire. Mais c'est toujours pas de votre faute. Toujours pas de votre faute.
La parole est à monsieur Bernard Cazeneuve, ministre du Budget.
Monsieur le député, vous avez raison, ce n'est pas de notre faute, c'est de la vôtre, c'est de la vôtre. Vous aviez promis de diminuer les dépenses publiques, elles ont augmenté comme jamais elles n'ont augmenté, c'est de la vôtre, c'est de la vôtre. Vous avez augmenté les dépenses publiques de 170 milliards en plombant notre pays, alors oui, ça c'est de votre faute. Vous nous avez laissé 75 milliards de déficit du commerce extérieur. Eh bien oui, ça c'est de votre faute. Vous nous aviez promis de travailler plus pour gagner plus. Et vous nous aviez promis que les plus pauvres des Français seraient